Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien de la librairie des étudiants. Notre livre du jour est un roman, un récit, un essai historique, autant de genres littéraires qui s'allient pour nous donner ce livre. Un livre fascinant qui nous pose aussi de nombreuses questions quant aux autres et à notre propre famille. Adélian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Avec plaisir.
Pour cet échange aujourd'hui. Votre livre s'intitule « Mon vrai nom est Elisabeth ». Il est publié aux éditions du Sous-sol depuis février 2025. Un livre de l'ordre de l'intime, de la famille et de tout ce qui n'est pas dit. Tout commence lorsque vous êtes avec vos grands-parents, en voiture, dans un voyage retour du Portugal pour Paris. Dans ce moment privilégié de l'habitacle de la voiture, vous osez interroger votre grand-mère sur Elisabeth, dite Betsy, votre arrière-grand-mère. Vous cherchez à convoquer les souvenirs de cette femme que vous n'avez pas connue et qui pourtant a laissé une trace dans votre famille. Personne ne veut parler d'elle, sa vie se résume avoir été interné pour schizophrénie. C'est l'histoire d'un tabou, d'un silence, d'un secret qui fait souffrir. Votre grand-mère vous dit « Je te remercie de faire ces recherches car je serai heureuse de savoir avant de mourir. Je pense, il y a donc quelque chose à savoir. » Comment ce silence vous a amené à l'écriture ?
Vaste question. C'est en fait pas totalement un silence, parce que si ça avait été un silence absolu, j'aurais sans doute rien eu à chercher. Ce qui est très ambigu avec l'histoire d'Elisabeth, donc mon arrière-grand-mère dans la famille, c'est qu'il y avait des traces disséminées de son absence, en fait. Donc ça va être certains signes, certains mots, c'est très lexical comme présence. Oui. Certains mots, son surnom, Betsy, qui a un surnom avec lequel j'ai quand même grandi alors qu'elle est morte 4 ans avant ma naissance. Schizophrénie, qui est un mot qui traîne comme ça, dont une sorte de menace très floue, dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle recouvre. Des objets, ce robot pour nettoyer la piscine dans la maison de vacances qu'on appelle la grand-mère, oui. Par référence à Elisabeth. C'est une présence lexicale, en fait. Et donc, c'est un peu le contraire du silence et en même temps ce qui rend son absence si visible. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des traces, mais en même temps, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle a vécu et on ne sait pas pourquoi elle est présente comme un espèce de fantôme dans la famille et pourquoi elle nous hante toutes un peu.
On ne sait pas vraiment et du coup, est-ce que cette absence de savoir, ça protège ou ça détruit ?
Ça fait peur et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si c'était complètement une absence, la peur de cette figure et de ce qu'elle représente ne pourrait pas exister. Et il y a un intérêt à la peur pour cette figure dans ma famille qui est que, comme il est dit qu'elle était schizophrène et que la schizophrénie est une maladie génétique, les femmes de ma famille, dont moi, devons veiller à nos comportements, faire attention à ne pas avoir certains comportements qui pourraient révéler le gène de la schizophrénie. Donc en fait, cette absence menaçante, elle crée la peur d'être malade à son tour et donc elle a une influence profonde sur nos comportements.
Quand on souffre, on n'écrit pas. Est-ce que vous avez dû mettre à distance la souffrance de votre famille pour pouvoir écrire ?
La souffrance de ma famille et ma souffrance à moi, je pense que... Non, en fait, vraiment, quand je dis quand on souffre, on n'écrit pas, je pense que je parle vraiment de ma souffrance à moi à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis complètement immergée dans un moment de vie très complexe, relationnellement. Enfin voilà, un passage, un moment de passage, et qui n'est pas du tout propice à l'écriture. Je pense que, en tout cas, à moi, l'écriture demande une certaine forme de stabilité, peut-être nostalgique, peut-être triste, peut-être tournée vers le passé, mais en tout cas, une forme de stabilité quand même. À l'inverse, quand j'ai pu sortir de ma propre souffrance et être attentive à la souffrance des autres membres de ma famille, mais aussi plus largement des personnes qui avaient travaillé dans l'institution psychiatrique et qui en témoignaient, quand j'ai assisté à cette souffrance-là et que j'ai été disponible pour elle, c'est-à-dire éloignée de ma propre souffrance, là, l'écriture est devenue possible.
L'écriture, justement, on va y rester. De ce roman, vous écrivez tout le temps au présent, que ce soit à travers les souvenirs que vous pouvez relater ou autre chose. Pourquoi le présent, précisément ?
Alors, ça me fait très plaisir que vous remarquiez ça. Je crois que vous êtes la première personne, en 8 mois de sortie,
carrément,
à faire un commentaire sur le temps des verbes dans ce livre. Et c'est pourtant...
C'est assez frappant, parce que même quand vous mettez le récit en prose, on pourrait penser à l'imparfait ou à d'autres temps du passé, et vous restez tout le temps dans le présent. Alors, je ne parle pas bien évidemment des retranscriptions des entretiens, parce que forcément, ça se fait en jeu et au présent, mais pour le reste. Pourquoi ?
J'ai passé un temps épouvantable à travailler sur les temps des verbes dans ce livre et j'ai hésité constamment sans pouvoir jamais me fixer sur un choix. Je pense que j'ai changé l'intégralité des verbes de ce texte 40 fois, sans rire. Hein. Tous, les uns à la suite des autres. Je me vois encore appuyer sur la touche espace, modifier, remplacer sur Word. Donc oui, et parce qu'en fait, c'est ce qui m'a semblé justement amalgamer en fait les différentes périodes ensemble et de permettre de pas créer des séparations oui. entre ces différentes générations et leurs traumatismes et faire comprendre que tout ça appartient à forme un terreau commun en fait de c'est quasiment la manifestation de ce qu'on peut appeler la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un terreau commun auquel on puise tous et toutes et ce présent manifeste cette communauté d'expérience en fait peu importe les différents temps dans lesquels vivent les membres de la famille.
La construction de ce roman, il faut aussi qu'on en touche un petit mot, singulière, pas pour autant déroutante, ce qui est aussi un plaisir pour le lecteur. Vous faites des allers-retours entre la correspondance de vos arrière-grands-parents, des extraits d'enregistrement, je l'ai évoqué, le récit et une partie d'histoire sur la médecine. Quelle a été la construction de ce roman ? Parce que vous avez beaucoup évoqué les verbes. Comment ça s'est passé, cette construction ? On suit de manière chronologique, plus ou moins ?
Alors, ça a été aussi, et c'est lié aux verbes d'ailleurs, ça a été aussi une partie très très compliquée du travail pour moi. Parce que déjà, se rendre compte, là, vous avez bien défini les différentes matières de texte, les différentes natures de texte. En fait, déjà, se rendre compte qu'il y avait ces différentes natures de texte, c'est un travail. Et rien que ça, je pense que ça m'a pris un an. Au bout d'un moment, donc il y a eu plein de formes d'organisation différentes. Il y a un moment où c'était quasiment qu'un roman de voix, qu'un texte choral, où j'avais réécrit tous les témoignages des membres de ma famille et ils racontaient ensemble l'histoire d'Elisabeth. Donc complètement différent, il n'y avait pas de jeu comme il y en a aujourd'hui. Et au bout d'un moment, je suis arrivée à cette proximité presque de la source avec ces trois fils, ces trois types de narration que sont le récit, les documents d'archives et les entretiens avec les membres de ma famille. Quand je les ai eus, quand je me suis rendu compte qu'ils existaient distinctement, je les ai organisés. De manière l'enquête, le fil de l'enquête, le récit de manière chronologique, le fil des documents de manière chronologique aussi par rapport à la vie d'Elisabeth, donc les documents qui témoignent le plus près de sa naissance jusqu'à sa mort, et les entretiens, je les ai plutôt laissés de côté à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qui... J'avais tellement de choses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui compte pour moi en fait ? Qu'est-ce que je veux faire avec ce livre ? À ce stade, ça fait 4 ans que j'ai fait ça, il y a tellement de choses à dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et je me suis rendu compte que ce qui comptait, c'était de faire une place à Elisabeth, de qu'elle ait enfin sa place quelque part, et que ce livre soit un peu comme un mausolée, un monument de papier, une tombe de papier pour elle qui n'avait jamais eu de place nulle part en fait, ni dans sa vie, ni dans sa mort. Et donc j'ai pris justement ce fil de ces documents d'archives qui racontent qui sont une version de la vie d'Elisabeth par les documents, et j'ai tramé autour d'eux le récit et les différents entretiens avec les membres de ma famille qui vont être comme des ponctuations en fait de ce fil-là. Et ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment passé un an et demi à devenir complètement dingue avec l'organisation de ce texte, j'ai failli renoncer 1000 fois, et quand ce squelette de papier d'Elisabeth m'est apparu, ça s'est dénoué, mais en 3 jours, quoi. Et tout d'un coup, tout s'est ordonné, parfaitement, exactement comme je le voulais, et ça s'est mis à ressembler à quelque chose.
Dans cette organisation, il y a aussi les lettres de vos arrière-grands-parents que votre grand-mère vous confie. Elle vous avoue ne pas les avoir lues. Est-ce que c'est aux nouvelles générations de continuer d'éclairer le passé avec tout ce qu'il y avait dans cette recherche ?
Oui, c'est aux nouvelles générations. Après, je pense que quand même... alors, ma grand-mère avait fait le choix de ne pas les lire, mais mon grand-père, lui, les avait lus. Et je pense qu'il a aussi joué un rôle dans le dénouement de la parole chez ma grand-mère, parce que lui avait une partie de l'histoire qu'elle n'avait pas. Ce que je dirais de manière plus générale, c'est que c'est l'extériorité à ces histoires, la distance à ces histoires, qui permet à la parole de se dénouer. Mon grand-père... même si il est avec ma grand-mère depuis 60 ans, il avait une distance émotionnelle plus importante que la sienne à cette histoire. Donc il pouvait lui poser des questions, l'inviter à revenir sur certains éléments, etc. Ce que moi, j'ai continué ensuite comme travail. Mais donc voilà, je pense qu'effectivement, cet autre regard, il permet à ces personnes qui sont trop près des émotions produites par ces histoires de les regarder différemment, et notamment sans la honte. Pour ce qui concerne cette histoire, sans la honte d'être, entre guillemets, la fille de la folle, comme disait ma grand-mère.
Il y a aussi, dans votre livre, la place des hommes autour de Betsy, à commencer par André, son mari, un homme qui lui écrit donc durant la Seconde Guerre mondiale, un homme qui se rend compte que Betsy n'est pas son idéal de femme sur certains points. Betsy est décrite comme trop, mais pas assez aux yeux d'André. Votre oncle parle d'un doute autour du mariage d'Elisabeth et André, qui voit plus clair dans leur relation d'un homme qui exerce une emprise. André évoque aussi beaucoup la religion dans ses lettres. Est-ce que la religion a eu une influence sur lui?
Je sais pas si c'est. Je pense que c'est un homme rigide qui a pris tout le réel à travers ce filtre-là, si vous voulez. Même sa manière, je veux dire, il y a plein de manières de comprendre et de vivre la religion. Sa manière à lui est également rigide, empreinte de mysticisme, empreinte d'une vocation de sainteté, de grandeur. Je dirais pas que c'est forcément. Je ne sais pas, en fait, l'œuf ou la poule, mais je dirais pas que c'est forcément la religion qui produit ça chez lui. Ce qui est sûr, c'est que je vois qu'il place dans la religion les mêmes tendances de son caractère que dans d'autres éléments de sa vie, de la rigueur, un tempérament de chef, de décision, de domination qui apparaît sur d'autres éléments.
Et quand il y a domination, parfois il y a en réponse de la colère. La colère d'une femme passe pour de la folie, c'est ce que nous comprenons en vous lisant. La colère aussi devant le silence. Comment est-ce que ce livre est une réponse à cette colère que vous écrivez vous-même dans ces textes?
Je sais pas si c'est une réponse ou simplement se donner la possibilité de la faire exister. Enfin, c'est moins une réponse que ouvrir un espace où elle peut être entendue, puisque la colère, donc ce que je découvre au fur et à mesure, c'est effectivement que Elisabeth a été punie par la psychiatrie de sa colère, qui elle-même surgit sans doute dans un certain contexte et pour certaines raisons, hein, un contexte de violence psychologique, conjugale, familiale, etc. Cette colère, elle ne peut pas exister dans la vie d'Elisabeth à partir d'un certain moment, parce qu'on lui fait une opération qui s'appelle la lobotomie, qui est donc une opération qui sépare une zone du cerveau d'une autre pour diminuer un certain nombre, enfin le rapport du sujet à ses émotions, en fait. Donc Elisabeth est une femme qui est privée de sa capacité à ressentir de la colère. Elle peut identifier sans doute des raisons d'être en colère, elle peut identifier des raisons d'être triste, etc. Mais ce sont les sujets lobotomisés, les femmes lobotomisées sont des femmes qui sont à distance de leurs propres émotions. Et ce livre, ce qui produit, mais c'était pas un projet de ma part au départ, c'est d'ouvrir un espace pour cette colère, tout simplement parce que la colère, elle naît en moi, elle naît en moi au fur et à mesure que je me confronte à cette histoire. C'est son histoire et celle de toutes les femmes que l'on voit à travers elle est insupportable au sens fort du terme. Elle m'a été insupportable. Elle m'a mise et elle me met toujours profondément en colère.
C'est ce qui vous a le plus marqué du coup en faisant ces recherches sur la lobotomie?
Oui, mais inséparable de la souffrance. C'est-à-dire ce qui m'a le plus marqué, non, c'est la souffrance profonde de ces femmes qu'on a mises dans ces situations et pour lesquelles après on a décidé. Et cette souffrance-là, elle produit chez moi de la colère.
Vous parlez des archives dans votre livre. Nous avons aussi donc les retranscriptions des entretiens des membres de votre famille. Au terme de l'écriture, que diriez-vous à propos de la mémoire?
C'est une immense question. Je reprendrai cette phrase de ma grand-mère qui me dit à plusieurs reprises « Je ne sais pas plus que ce que je sais », qui est une phrase assez merveilleuse parce qu'elle dit absolument tout et absolument rien. J'ai pu voir que les sujets pensaient savoir seulement certaines choses et qu'en les disant, ils se rendaient compte qu'ils en savaient d'autres. Donc dire je sais seulement ce que je sais, en fait, ne dit rien puisqu'on sait souvent plus que ce qu'on imagine savoir. Ce que je dirais par rapport à la mémoire, c'est qu'elle est profondément plastique et c'est absolument fascinant de voir comment face à de nouveaux paramètres, de nouvelles informations qu'on apporte à des personnes, on peut voir mais visuellement la mémoire de la personne en face se transformer en réintégrant les éléments qu'on lui importe comme si ces informations allumaient de nouvelles zones dans leur cerveau qui n'étaient pas disparues, qui étaient juste simplement éteintes.
L'auteur états-unien Philip Roth disait « Quand un écrivain naît dans une famille, alors la famille est foutue. Quelle a été la réception de votre livre dans votre famille ?»
Cette phrase, c'est une des premières choses que m'a dite mon éditeur quand on s'est rencontrés. Il faudrait que vous me la redonniez intégralement parce que j'oublie toujours de la citer.
Je vous laisserai le papier,
ouais,
si vous
tout
voulez.
Tout à fait. La réaction de ma famille... Honnêtement, est très complexe et j'aurais du mal à. Enfin, il y a quasiment autant de réactions que de personnes dans cette famille. Si je devais en dégager une tendance, ce serait quand même, et j'en suis très heureuse, une certaine gratitude vis-à-vis de la libération que ça produit de cette malédiction. Parce qu'il faut quand même comprendre que c'était quelque chose de très, 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 très lourd collectivement pour les femmes de ma famille d'imaginer qu'on avait cette épée de Damoclès de la maladie mentale au-dessus de la tête. Et aujourd'hui, je reçois quand même énormément de remerciements de la part de tantes, de cousines, etc. d'avoir mis à distance cette peur et donc aussi donné un espoir que les générations ultérieures et les générations de femmes ultérieures ne vivent pas avec. Ça n'empêche qu'il y a, évidemment, c'est toujours douloureux de voir ressurgir cette histoire. Douloureux, ça ne veut pas dire pas nécessaire. Je pense douloureux et nécessaire. Mais que, voilà, quand des personnes ont grandi... les enfants d'Elisabeth, ils n'ont pas parlé de leur mère pendant 80 ans, quoi. Il faut imaginer ça. Donc, voir tout d'un coup que cette femme qui n'était nulle part, soit dans toutes les conversations, soit partout autour d'eux, produit une certaine violence, ou en tout cas quelque chose d'inhabituel pour eux, que je comprends, que je conçois aussi.
Dans les livres qu'on peut transmettre du coup aux autres, quel est le vôtre que vous lisez actuellement ?
Je suis en train de lire Folie et résistance de Claire Touzard, qui est un livre qui part de son diagnostic de bipolarité et qui revient sur cette chose extrêmement étrange de être à la fois en nécessité de se définir comme malade, parce que ça soulage au niveau de ses propres perceptions, et en même temps de ne pas pouvoir s'empêcher de savoir que... c'est être mis dans une case qu'être dit malade mental, et que c'est aussi une manière dont la société repousse et met à distance des tentatives de révolte, d'insoumission, de critique sociale, etc. etc. Et donc c'est vraiment un livre qui parle de cette ambiguïté entre le besoin d'appartenir à une certaine catégorie et en même temps le rejet profond de ces catégories-là.
Un texte donc à lire en complémentaire avec le vôtre, Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux éditions du Sous-Sol, un livre déjà récompensé entre autres du prix Essai France Télévisions et du Nouvel Obs. Merci Adélion.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 11h pour les chroniques et très prochainement pour un nouvel entretien. La capsule auditive avec Adélion est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite d'avoir de belles lectures.